hola, chers auditeurs de Radio Résonance. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre lusophone. Le Portugal est notre pays d'origine, mais nous avons décidé d'élargir le contenu de cette heure d'antenne à tous les autres pays lusophones. Nous entamons aujourd'hui notre troisième saison, ce qui veut dire que depuis 3 ans, nous essayons de transmettre à travers cette émission notre passion pour la culture lusophone. Et j'espère que ça se sent. Ce soir, c'est la reprise. On revient en direct après 10 semaines de rediffusion et on en est très heureux, n'est-ce pas, Manu?
Oui, bonjour tout le monde. Oui.
Bonsoir à toi.
Troisième année.
Tout va bien pour toi?
Ça va.
Alors ce soir, à la place normalement de tenue à la technique par Jeff et en son absence, c'est toi qui t'y colles.
Oui. Lourde responsabilité.
Non, mais tu es un garçon très polyvalent et je suis sûre que ça va bien se passer. Notre grand Jeff est absent et on le salue s'il nous écoute. Alors, pour le sommaire de l'émission, dans les 20 premières minutes de cette émission, nous aurons ce soir la voix de Martine qui, comme tous les mois, nous a envoyé sa petite chronique enregistrée. Aujourd'hui, elle nous parle d'une race de chiens pour qui elle a eu un coup de cœur. En aurait-elle rencontré pendant ses vacances? On ne sait pas. Et juste après, dans la chronique culturelle, je vous emmènerai vous perdre en Amazonie pour vous sensibiliser, je l'espère, à l'avenir menacé de cette terre de la démesure qu'est la forêt amazonienne. Manu, je te laisse le soin d'appuyer sur le bouton pour lancer l'émission. On y va.
C'est parti.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous parlerai des animaux de compagnie. Mais qui donc, enfant, n'a jamais rêvé d'avoir un chien ou un chat? Un animal est fort apprécié des enfants ou des adultes pour la douceur de sa compagnie. Mais détenir un animal, c'est aussi savoir endosser une responsabilité et montrer respect envers eux. L'animal de compagnie n'étant pas seulement un objet, un jouet pour un temps plus ou moins court, mais bien puissant. C'est un être vivant qu'il faut traiter en tant que tel. Pas question de vouloir l'abandonner au plus vite, hein. Après la découverte des contraintes qu'ils nous apportent. L'abandon des animaux ne cesse d'être médiatisé et, à travers le monde, des lois existent pour leur protection. D'ailleurs, récemment au Portugal, une révision des sanctions applicables aux auteurs de mauvais traitements infligés aux animaux de compagnie a été faite. Un nouveau texte juridique voté le 23 juillet 2020 précise que les animaux ne sont plus considérés comme choses, mais passent à être reconnus, dotés de sensibilité et faisant donc l'objet de protection juridique. Un simple exemple, en cas de divorce d'un couple, la garde de l'animal devra être régulée en accord avec son bien-être, tout comme cela l'est déjà pour l'enfant. Ainsi, le Portugal protège depuis peu mieux ses animaux de compagnie. Toute personne qui infligerait maltraitance ou abandon se verrait passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou d'une forte amende. Cette sanction peut être doublée si mort s'ensuit de l'animal. Tout animal de compagnie né sur le sol portugais est dorénavant obligatoirement enregistré par son propriétaire au système d'information sur les animaux familiers, ce qui facilitera l'application de la sanction et du traçage de son maître en cas de maltraitance. Mais, je peux vous rassurer, la vie animale n'est pas aussi dure que cela. Il suffit de se référer par exemple aux mascottes de certaines maisons présidentielles. Adopté en 2017 dans un refuge de la SPA, Société Protection Animale en France, Nemo, un chien croisé de Labrador, Retriever, Griffon, vit désormais au palais de l'Élysée, résidence officielle du président français Emmanuel Macron à Paris. Mais continuons avec Assa, un berger d'Alsace, communément berger allemand, a été offert en 2016 à Marcello Rebelo de Sousa par la force Area. Le président de la République du Portugal a toutefois laissé dire être passionné par les animaux, même s'il n'a pas toujours le temps à donner à son chien. Bien évidemment, je ne m'arrêterai pas à ces deux chiens. Je parlerai un peu plus longuement de la race du chien d'eau portugais. C'est sur les côtes portugaises de l'Algarve que le chien d'eau est d'abord utilisé, aidant les pêcheurs à rapporter le poisson et les filets. Il peut même livrer des messages d'un bateau à l'autre à la nage. On l'appelle alors « cão de água », l'équivalent portugais du nom qu'on lui connaît ici. Bo, un chien de race d'eau portugais noir et blanc, a été porté à l'attention du public lors de son entrée en 2008 dans la famille Obama. Dès lors, il apparaissait régulièrement dans les événements de la Maison Blanche à Washington. Pendant plus d'une décennie, Bo a été une présence constante et rassurante, mais surtout fidèle compagnon. Mais le 2 mai 2021, emporté par un cancer, la famille Obama a perdu avec Bo un véritable ami et compagnon loyal. L'ex-première dame Michelle Obama avait même déclaré « En tant que famille, Bo nous manquera beaucoup ». Je pourrais continuer à énumérer les mascottes présidentielles, mais je vais m'en tenir à cela. Toutefois, il existe un Jack Russell qui se nomme Isidore. Il n'a pas la chance de vivre dans une maison présidentielle, mais dans mon humble demeure alsacienne. C'est un chien pourvu d'une intelligence exceptionnelle. Il aura su acquérir au fil du temps et lors de mon apprentissage de la langue de Camoche une particularité bien à lui. D'ailleurs, l'équipe de Radio Résonance le sait déjà. Isidore est probablement le seul Jack de mon quartier capable d'aboyer en français, en alsacien, mais aussi en portugais.
Sol, da chuva, de águas profundas, escuras e claras, encontro das águas. Terra da vitória régia, do Jaçanã vigia, do boto que salta e encanta o turista. Terra firme e base, acabou do madeiro, barco de madeira, lenha pro mundo inteiro. Animais sem abrigo se espalham na mata, derrubada a vista surge nova estrada. Terra de rios e matas, floresta encantada, o verde do mapa, refúgio ou morada. Terra de raios que abrem clareiras na mata, de índios que fazem o cerco na estrada. Lamparinas se acendem no meio da noite, panzeiro indica a presença de alguém. Lanterna focada nos olhos que ardem, silêncio na mata, o tiro da arma. Terra das ariranhas, de onças pintadas, antas capivaras, do verde do nada. Terra de gente que faz a festa em cena, de olhos de boto, de bicos e penas. Sabiás, papagaios, tucanos, araras, mutus, cobra grande, cadê nossa fauna? Ah, se a Amazônia falasse o que ela diria, o choro da selva me dói na alma. Terra das ariranhas, de onças pintadas, antas capivaras, do verde do nada. Terra de gente que faz a festa em cena, de olhos de boto, de bicos e penas. Sabiás, papagaios, tucanos, araras, mutus, cobra grande, cadê nossa fauna? Ah, se a Amazônia falasse o que ela diria, o choro da selva me dói na alma.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontres lusophones.
Vous venez d'écouter « Au vert du map » de Julia Tchouel en introduction de la chronique culturelle de ce soir. Et pour la première émission de cette nouvelle saison, et sans vouloir vous saper le moral, j'ai choisi un thème d'actualité. Ce thème est directement lié au changement climatique et à son urgence. Un thème pesant, je le sais bien, mais malheureusement réel, puisque nous subissons déjà au quotidien quelques-uns de ses effets néfastes. Et donc, pour illustrer mes propos dans cette rubrique, j'ai choisi de vous emmener jusqu'en Amazonie, au Brésil. Et en tout état de cause, puisque il y a environ 2 mois, je suis allée visiter l'exposition Amazonia à la Philharmonique de Paris. Une exposition encore visible jusqu'au 31 octobre et que je vous conseille vivement, car elle est une invitation à ouvrir les yeux. À les ouvrir sur la menace qui pèse aujourd'hui sur la forêt amazonienne. Et pour bien faire prendre conscience au monde entier de la gravité de la situation écologique, cette expo est d'ailleurs déjà présente presque simultanément dans plusieurs endroits de la planète. Aujourd'hui, on peut donc la voir à Paris, à São Paulo, au Brésil, à Rome ou à Londres. Et je trouve que c'est un très bel outil de propagande. D'ailleurs, un de ses plus grands atouts, c'est qu'elle est aussi bien visuelle que sonore, puisqu'elle réunit les photos du célèbre photographe franco-brésilien Sebastião Salgado sur une création musicale inédite de Jean-Michel Jarre, que vous écoutez déjà en fond musical. Cette expo à la Philharmonique est donc une exposition qui donne à voir et en même temps à entendre la forêt amazonienne. Je vous ai parlé des 2 protagonistes de cette superbe expo, mais en réalité, ils sont 3. Il y a tout d'abord l'objet essentiel de l'exposition et qui sont en l'occurrence les immenses clichés en noir et blanc de Sebastião Salgado. Des photos qui se conjuguent parfaitement avec l'immensité de la forêt et qui sont le résultat de 6 années de travail et d'immersion au cœur de la forêt amazonienne. Il y a ensuite la scénographie de toutes ces photos dans un lieu magique qu'est la Philharmonique de Paris. Elle a été réalisée par Lélia Salgado, l'épouse du photographe. Et là aussi, c'est une belle réussite parce que grâce à une disposition harmonieuse, avec une légère pénombre, elle nous plonge dans le cœur même de la forêt. Et pour terminer, il y a l'habillage musical de cette expo, une bande sonore réalisée par Jean-Michel Jarre. Un habillage aussi étrange que fascinant, puisque, et vous pouvez le vérifier actuellement, il mêle des bruits de la nature comme la pluie, le vent, les oiseaux, des voix humaines avec des échanges quelquefois étranges, quelquefois lointains et de temps en temps légèrement inquiétants. Et ce qui est peut-être perturbant, voire même dérangeant, c'est qu'il n'y a en fait aucune mélodie dans ce fond sonore. En réalité, au-delà de cette bande-son sans mélodie, tout cet ensemble est là pour nous interpeller et éveiller tous nos sens. Et je dois dire que c'est assez réussi. D'ailleurs, lorsque l'on a pénétré l'enceinte de l'édifice, il ne faut pas très très longtemps pour ressentir comme une sensation d'étouffement, parce qu'on s'y croirait vraiment. En tout tout cas, ce voyage vers cette terre inconnue qu'est l'Amazonie nous procure une vraie sensation de vertige. Une première pause musicale et je vous expliquerai tout à l'heure comment est née l'idée de cette exposition. Toutes les musiques que j'ai choisies pour illustrer cette chronique sont évidemment brésiliennes. La première est une véritable ode à la beauté et à la grandeur de l'Amazonie. Elle est chantée par Chico Buarque et elle s'appelle « Umas y Outras ».
Nesta avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto, seu pranto nasceu o rio mar.
A lua apaixonada chorou tanto, que do seu pranto nasceu o rio mar.
E dizem mais, Jaçanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor.
Pois um valente guerreiro por ela se apaixonou,
ela se transformou.
Quando chegava a primavera, a estação das flores,
havia uma festa de amores.
Era a tradição das Amazonas, mulheres guerreiras, aquele ambiente de alegria
que terminava ao raiar do dia.
Je vous laisse vous replonger dans cet étrange univers sonore d'Amazonie avant de vous parler de cette exposition actuellement toujours visible à la Philharmonique de Paris. Il s'agit du projet Amazonia présenté par Sebastião Elélia Salgado, lui-même accompagné d'une création sonore de Jean-Michel Jarre. Cette exposition est très surprenante parce qu'elle restitue la voix et le témoignage des communautés amérindiennes photographiées dans un véritable ou une véritable symphonie monde imaginée par Jean-Michel Jarre à partir des sons concrets de la forêt. Elle présente au public plus de 200 photos accompagnées d'immenses projections à la mesure de cette nature hors norme. Et il y a beaucoup à dire sur cette exposition. Tout d'abord qu'elle est gigantesque et que l'un de ses principaux objectifs, selon son auteur Sebastião Salgado, est de souligner la fragilité de l'écosystème de la forêt amazonienne brésilienne ainsi que les modes de vie des peuples qui y vivent. Pour le visiteur de cette expo hors norme, c'est en tout cas un superbe voyage photographique. Lorsque l'on entre dans l'immense salle d'expo, on est tout de suite hypnotisé et comme happé par les immenses photos en noir et blanc qui s'élèvent face à nous. Et en même temps, on se sent littéralement baigné dans cette étrange musique de Jean-Michel Jarre. Mais en réalité, la toute première chose qui nous interpelle immédiatement dès l'entrée, c'est une grande carte murale du Brésil qui nous propose une géographie des lieux. Elle nous renseigne sur le grignotage incessant de l'homme sur la nature. Elle nous indique que la forêt amazonienne a déjà perdu près de 20% de son territoire ces 30 dernières années. D'ailleurs, Cette déforestation nous saute immédiatement aux yeux car elle est marquée en rouge sang sur la carte. Le but étant de nous alerter sur ce venin qui se répand sur les bordures sud et est de la forêt et qui s'enfonce au plus près des territoires indigènes. Ce fléau, Sébastien Sorgade le pointe dans chacun des textes qui balisent son exposition, comme pour nous rappeler la menace qui plane sur les paysages grandioses de la plus grande et impénétrable jungle du monde. Cette carte nous montre également très distinctement les zones inondables et donc inconstructibles. Et on y voit également et surtout les territoires que le président actuel, Jair Bolsonaro, vise en vue d'autres exploitations. Par déduction, on y remarque donc les zones de la forêt pour l'instant encore occupées par les populations locales qui, entre parenthèses, y habitent depuis toujours. Ces terres sont évidemment les seules terres encore vierges de toute cette exploitation. Cette immense carte au tout début de l'exposition nous permet donc de comprendre que ce qui se tient là, à la Philharmonique de Paris, n'est pas seulement un plaisir des sens, mais également une réflexion sur le devenir du poumon de la planète. Et le Brésilien Sébastien Sorgade, reconnu par ses pairs comme un photographe humaniste, était sans aucun doute la meilleure personne pour documenter cette partie du monde. Ces immenses clichés en noir et blanc se conjuguent à merveille avec l'immensité de cette forêt. Un projet qui est pour ce photographe le résultat de 6 années de travail qu'il a mené de 2013 à 2019. Et comme il le dit lui-même, on ne s'improvise pas. Reporter dans la forêt amazonienne, c'est elle qui vous y invite. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la scénographie merveilleusement réalisée par son épouse Lydia Salgado nous plonge au cœur même de la forêt. Mais alors, pourquoi le choix de la Philharmonique de Paris pour exposer ces 200 photos ? Eh bien, Marie-Pauline Martin, la directrice de ce grand espace qu'est le Musée de la Musique, raconte que l'exposition est née de sa rencontre avec Sébastien Salgado, qui cherchait en France un endroit pour exposer ses photos. En voyant ce lieu unique, il y aurait immédiatement eu, de la part du photographe, un véritable déclic. Et c'est au vu de la beauté et de l'efficacité des lieux qu'il a réfléchi à la façon de donner à son exposition une dimension musicale très forte. Et c'est là que la directrice des lieux a immédiatement pensé à Jean-Michel Jarre, déjà engagé lui-même sur des questions écologiques. Et qui dit Jean-Michel Jarre dit musique électroacoustique, électronique et donc musique faite pour les grands espaces. Lorsqu'il a été contacté par la directrice de la Philharmonique, le musicien avait émis le souhait de ne pas tomber dans de la musique ethnique. Son envie était plutôt de partir vers des sons purs de la forêt. Ça tombait très bien, puisque dans le cadre de son partenariat avec le musée ethnographique de Genève, la Philharmonique a pu proposer aux musiciens d'aller puiser sa matière première dans la vingtaine d'heures d'écoute de sons collectés par le musée de Genève en Amazonie dans les années 50. Et dans cette bande son, rien n'a donc été laissé au hasard pour mettre tous nos sens en éveil. On y entend des chants religieux, des chants d'oiseaux, des instruments traditionnels tels que le bâton de pluie, des bruits d'averse, de tonnerre. Et l'expérience est vraiment unique parce que tous ces sons mêlés au labyrinthe d'immenses photos suspendues nous donnent comme l'impression d'être immergés au cœur de cette forêt primitive et mystique. Et ces partitions musicales proches de la transe accompagnent merveilleusement bien la scénographie crépusculaire conçue par Lilia Salgado. En ce qui concerne maintenant les photos de Sébastien Sorgade, elles sont de vue captées par le photographe pendant 6 ans au cœur de la forêt brésilienne, ainsi que des portraits et des instants de vie de 10 groupes autochtones. En parcourant l'expo, on tombe au hasard de la visite sur des toutes petites salles réservées à toutes ces tribus. On peut y voir les Suravaca, la tribu des Corubo, les Marubo ou celle des Yanomami. Et on fait ainsi la connaissance de 12 peuples indigènes. Pour les visiteurs que nous sommes, ce sont des invitations à découvrir le visage et le corps d'hommes et de femmes immergés dans cette nature grandiose. Les portraits sont magnifiques, saisissants de pureté, d'innocence, de bonne humeur et de fierté. Je vous parlerai tout à l'heure des dangers qui planent sur la forêt amazonienne et qui sont déjà une menace pour l'humanité. Mais pour l'instant, juste après une deuxième pause musicale, ou avant une deuxième pause musicale, en brésilien, je vous proposerai une interview de Sébastien Salgado. C'était Le Temps d'un bivouac, une émission enregistrée le 11 mai de France Inter, dans laquelle il nous raconte la genèse de son exposition. L'interview fait environ 13 minutes, mais il s'écoute très bien. Je vous invite d'ailleurs à être attentif à la douceur de sa voix et à son engagement pour la nature. Mais tout de suite, la deuxième chanson de cette chronique, Caetano Veloso et Sa Beleza Pura.
Dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio, beleza pura, dinheiro não.
Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia.
Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro não, mas a cultura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badauê, beleza pura, do Ilê Aiê, beleza pura, dinheiro e beleza pura, dinheiro não.
Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fina palha da costa e que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos.
Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios. Dinheiro não,
beleza pura,
dinheiro não,
beleza pura,
dinheiro não,
beleza pura,
dinheiro e
beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura.
Il y en a une destruction permanente de cette forêt. C'est une immense forêt. Il y a 9 pays amazoniens et le Brésil, c'est un seul, mais le Brésil possède à peu près 65% de l'Amazonie. J'ai été accepté par l'armée qui m'a mené dans ces missions, beaucoup de missions en hélicoptère, et qui me permettait de photographier avec les portes ouvertes. Et là, j'ai pu faire une collecte des matériels visuel en montrant certains espaces de l'Amazonie qu'on ne connaît pas. on aura une exposition avec des montagnes de l'Amazonie. Parce que les photos d'Amazonie, normalement, qu'on connaît, c'est une énorme plaine avec une grande rivière qui serpente au milieu. Mais il y en a énormément de montagnes en Amazonie, de très hautes montagnes. Il y en a des espaces en Amazonie qui n'ont pas de forêt, des espaces immenses, des espaces qui étaient érodés il y a à peu près 1500, 2000 ans, et qui ne sont pas reconstruits, qui sont là. Et la forêt amazonienne, elle a une énorme capacité d'évaporation. Normalement, les nuages se forment par des humidités qui viennent de la mer. Mais l'Amazonie, c'est le seul endroit au monde, hors des océans, qui a une capacité de reconstruction de son humidité. Chaque grand arbre, elle évapore en moyenne 1000 à 1200 litres d'eau par jour. Elle met tout ça en atmosphère, des milliards d'arbres, et qui crée un flot d'humidité aérien qui c'est plus grand que les flots des fleuves Amazones lui-même. Et beaucoup de ces humidités qu'on a ici, sur notre espace, la France, beaucoup vient de là-bas. L'exposition qu'on présentera ici à la Philharmonie, elle compose d'une partie humaine et d'une partie physique de l'Amazonie. Donc, la tentative, c'est de montrer cet espace pour voir si ensemble, on pourrait créer un débat. On pourrait poser la question amazonienne, amener avec nous les organisations indigènes pour créer un débat, une discussion à propos de l'Amazonie. Parce qu'on pourra sauver cet espace. Mais si on le sauve tous ensemble, il faut qu'on se mêle l'humanité toute entière pour protéger cet espace. Le Brésil est un espace pour l'agriculture, peut-être un des plus grands du monde. Le Brésil a déjà une des agricultures plus grandes du monde. C'est un problème de meilleur utiliser son espace déjà déforesté, monter la rentabilité, investir dans la recherche agricole et arrêter la destruction. Si le Brésil est là en avenir, c'est dans la biologie, c'est dans la nature, c'est en protégeant cette grande forêt, que c'est la plus grande forêt tropicale au monde, et on peut devenir les pays les plus verts, les plus écologiques, les plus responsables du monde. Et avec ça, on pourra avoir un retour économique pour les pays colossal. Mais il faut s'y prendre d'une autre manière qu'on a pris jusqu'à présent. L'Amazonie, c'est un grand espace de forêt, mais possiblement, soit c'est la plus grande concentration culturelle du monde. On a plus de 300 tribus différentes en Amazonie, avec presque 300 langues différentes, avec un peu plus de 300 cultures différentes, avec des traditions incroyables, des traditions héritées des Incas, qui il y a 500 ans, sous la pression espagnole, ont descendu des Andes, ont pénétré dans la forêt amazonienne, et beaucoup sont finis dans la forêt amazonienne brésilienne, sont là encore. Beaucoup de peuples qui, il y a des milliers d'années, ont marché dans l'Amérique centrale. On sait qu'ils ont venu de l'Amérique centrale parce que les corps linguistiques qu'ils parlent, c'est de là-bas, vous savez. Des peuples qui sont venus d'extrême sud de l'Amérique. J'ai travaillé avec un peuple incroyable qui, ils sont venus de la côte atlantique brésilienne. Les jésuites les ont rencontrés en 1600, 1580-1600. Ils ont disparu. On les a retrouvés à nouveau il y a 20 ans. Et les troncs linguistiques, c'est exactement les mêmes de la côte brésilienne, d'État de Bahia. Et aujourd'hui, les scientifiques ont calculé que ces Indiens ont mis au moins 3000 ans pour venir de la côte atlantique, d'État de Bahia, au centre-sud du Brésil, arriver là où ils sont, en Amazonie. Donc, ils ont amené des cultures de là-bas. Et tous ces peuples, vous savez, la culture des Caraïbes, on a beaucoup d'Indiens d'origine caraïbe, avec des langues caraïbes, et tout ça, c'est dans l'Amazonie. Cette richesse concentrée là-dedans, c'est phénoménal. Je suis né dans un pays musical. La musique populaire brésilienne, elle est diffusée, elle est diffondue partout, partout, vraiment partout. Et d'abord, moi, citoyen qui est venu de la partie occidentalisée du Brésil, avec des origines étrangères, je chante énormément les musiques que j'ai apprises dans ma jeunesse. Et donc, je n'ai pu photographier qu'en chantant. Vous savez, je chante beaucoup. j'ai découvert une chose incroyable. Quand j'ai photographié avec des pellicules et que j'ai été complètement intégré dans un phénomène photographique, vous savez, quand vous allez photographier, il faut que vous vous intégriez, sinon vous n'arrivez pas à faire de photos. Vous vous liez à ce qui est en train de passer et vos photos sont des coupures représentatives de l'évolution de ces phénomènes qui se passent en face de vous. Il faut une concentration énorme. Mais c'était malheureux parce qu'après 36 photos, il fallait que j'arrête, que j'enlève ma pellicule de mon appareil, que j'en mets une autre, je faisais une cassure de ma concentration. Et j'ai découvert une chose phénoménale. C'est qu'en photographiant un chantant, je ne cassais pas ma concentration, je ne cassais pas ma séquence. Parce qu'en chantant, j'ai changé ma pellicule, en chantant, j'ai continué à photographier. Et donc, la musique, pour moi, c'était mon fil conducteur de faire la photographie. Et étonnamment, pour moi, quand j'arrivais en Amazonie, je trouve un peuple de chanteurs. Les Indiens chantent beaucoup. C'est phénoménal quand vous partez en brousse et que les Indiens se répartissent dans la brousse. Vous écoutez des chants un peu partout, à l'exception quand ils chassent. Quand ils chassent, non, parce qu'ils font un silence absolu. Quand ils chassent, ils font attention à tout ce qu'ils s'alimentent, à tout ce qu'ils mangent, au moins une semaine avant, parce que ce qu'on mange, l'odeur passe par la peau et les animaux sentent qu'il y a une odeur différente, ils s'en vont. Et donc, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils ne chantent plus non plus. Mais quand ils sont pour l'agriculture, parce que les Indiens sont des très grands cultivateurs, quand ils sont à la collecte, ils collectent beaucoup des arbres, des forêts, quand ils sont à la pêche, il y en a beaucoup de chants, vous savez. Et donc, je me sentis beaucoup chez moi en Amazonie. Il y a des grandes fêtes. Et toutes ces grandes fêtes sont des fêtes très musicales. Il y en a des échanges de bienvenue qui ce sont des discours musicaux. Un Indien arrive pour une fête, il est invité. Vous savez, les distances sont énormes. Quelquefois, il met une semaine, 10 jours, 15 jours, des marches pour arriver, des navigations, ils viennent dans la forêt. Et quand il arrive, avant qu'il s'installe, il raconte son histoire. Qu'est-ce qu'il a vu, où il a passé. Il y a un autre qui le reçoit. Ils se mettent un contre l'autre, épaule contre épaule, les visages à côté de l'autre, et on fait un récit en chantant. Et l'autre répond, fait un autre récit en racontant les nouvelles des villages qu'il reçoit. C'est tellement beau. C'est tellement incroyable. Les fêtes indiennes, c'est très difficile de dormir parce que les Indiens chantent jour et nuit. Il y en a un groupe de 10, 15, 20 Indiens qui vont en chantant, en dansant pendant une deux heures. Ces groupes se fatiguent, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent parce qu'on ne commence pas tous ensemble. On commence un certain déphasage de temps. Quand c'est fatigué, il sort, rentre un autre qui n'est pas fatigué. Et donc, pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, on chante, on danse, hein, en circulant. C'est très musical, l'Amazonie. Dans cette exposition, on aura un espace qui était construit comme si on était dans la forêt. On aura des photographies de la forêt, des rivières, des nuages, des chutes d'eau. Et à un moment quelconque, on rentre dans un cercle ou dans un losange en format d'une maison indienne. Et là, on trouve les tribus. Mais Jean-Michel Jarre, il a composé une son musical très beau en utilisant les sons de l'Amazonie. On a un musée à Genève qui collecte tous ces sons. Et Jean-Michel Jarre a organisé ces sons dans une séquence musicale très très belle. Donc, vous allez rentrer dans l'exposition, vous allez vous déplacer avec cette musique comme fil conducteur, avec les sons de l'Amazonie dans l'Amazonie. On aura des espaces isolés des projections, un espace qui est avec des portraits des personnes, des portraits des Indiens, avec un son de musique indienne. On a un groupe au Brésil qui s'appelle Pau Brasil. Et le groupe Pau Brasil est très lié à tous les sons de l'Amazonie, à tous les sons indiens. Et donc, ils ont composé une musique spéciale pour cette projection avec des chants indiens, avec des flûtes indiennes, avec des tambours indiens. Il y aura un deuxième espace avec des projections, des photographies physiques. Photographies de la forêt, des montagnes, des rivières aériennes. Là, on le fera avec une musique de Villa-Lobos qui s'appelle « Érosion » ou « L'origine des fleuves amazones ». Elle a composé une très belle symphonie, Villa-Lobos, et donc ces sons de l'érosion ou l'origine des fleuves amazones sera les fils conducteurs de cette projection. On a beaucoup d'espace hors l'Amazonie qu'on est en train de détruire à une vitesse incroyable. J'ai beaucoup travaillé en Asie, et je connais beaucoup l'Indonésie. Les premiers voyages que j'ai fait à l'île de Sumatra, le Sumatra était couvert de forêts. Il n'existe plus de forêts à Sumatra. Sumatra, c'est un espace considérable de la planète. On a tout détruit cette forêt pour planter l'huile de palme. Qu'on va au Célèb, c'est des îles incroyables là-bas. On est en train de tout abattre pour mettre l'huile de palme. Et aujourd'hui, dans la partie indonésienne de la Nouvelle-Guinée, ce qu'on appelle la West Papua, on est en train de détruire à une vitesse encore beaucoup plus grande qu'en Amazonie. Donc, ce qu'on est en train de faire pour l'Amazonie, c'est vrai pour la planète entière, c'est vrai pour l'Afrique. Vous savez, il faut protéger cette planète. On est nature. Jusqu'il y en a quelques centaines d'années, on vivait dans la forêt, on vivait dans les cavernes. Ça fait pas très longtemps qu'on a sorti de là. On est nature, on fait partie des espèces animales. Les jours qu'on aurait détruit la biodiversité, possiblement on disparaîtra aussi. Parce qu'on est biodiversité. Il faut qu'on la protège pour qu'on puisse vivre en paix dans cette planète, inclus la nôtre.
C'était la voix de Sébastien Sorgat qui nous expliquait comment est née cette exposition Amazonie. Une expo dont l'objectif premier, on l'a bien compris, était de nous alerter sur la fragilité de cette nature hors norme qu'est la forêt amazonienne et plus globalement, plus généralement sur notre terre. Et bien justement, concernant l'Amazonie, on sait que la forêt recouvre plus de 5 millions de kilomètres carrés répartis sur 7 pays du continent. On sait également que depuis 1970, près de 20% ont déjà été rasés, en grande partie pour cultiver du soja, du bois, de l'huile de palme, des biocarburants ou tout simplement pour faire de l'élevage bovin. Et on le sait, il y a danger à surexploiter cette forêt primitive. Des comités scientifiques nous ont déjà fait savoir que le point de basculement, c'est-à-dire le moment où la forêt aura été rasée à 35%, à ce moment précis, elle disparaîtra. Ce point de basculement n'est pas très clair pour l'ensemble des scientifiques. Certains parlent de 17%, d'autres de 20% de forêts déjà détruites, ce qui en soi ne change pas grand-chose puisque l'on sait que si l'on continue à détruire cet écosystème à cette vitesse, sa disparition sera de toute façon imminente et irréversible. Ce n'est plus qu'une question de mois ou dans le meilleur des cas, une question d'années. Le dernier rapport du GIEC l'a bien souligné, l'humanité doit se préparer à des changements beaucoup plus vite qu'attendus. L'écosystème amazonien pourrait donc ainsi basculer dès l'an prochain. L'an prochain. Rappelez-vous l'année dernière, il y a 2 ans, les feux de forêt devenus hors de contrôle en Amazonie. Les scientifiques nous certifient que si l'on n'agit pas rapidement, nous pourrions être sur le point de perdre une des forêts tropicales les plus vastes et les plus diversifiées qui évoluent depuis 58 millions d'années et dont dépendent des dizaines de millions de personnes. C'est catastrophique. Je me souviens encore que lorsque dernièrement la forêt amazonienne avait brûlé de manière incontrôlable, le secrétaire général de l'ONU Guterres et plusieurs chefs d'État, dont notre président français, avaient réagi en parlant d'une crise internationale, ce qui, rappelez-vous, avait suscité la colère de Jair Bolsonaro. La forêt amazonienne est en effet un cas très particulier, comme d'ailleurs tous les espaces communs, tels que l'océan, l'atmosphère, les pôles ou encore l'espace. Cette forêt constitue une ressource dont les bienfaits bénéficient à nous tous humains. Et on sait malheureusement que sa destruction nuirait à l'humanité tout entière. Mais contrairement à tous ces espaces communs que je viens de citer, la forêt amazonienne est située sur le territoire d'États souverains qui n'hésitent pas à le rappeler. L'Amazonie appartient au Brésil. C'est ce qu'avait martelé le président Bolsonaro qui, lors des derniers incendies, avait répondu à Emmanuel Macron que celui-ci s'ingérait dans un problème interne. Et non, monsieur Bolsonaro, vous vous trompez. L'Amazonie appartient bien à nous tous, à l'humanité. Cet homme climato-sceptique, un de plus, ne cache pas qu'il considère la protection de l'environnement comme un obstacle au développement économique. Il faut d'ailleurs savoir que depuis son arrivée au pouvoir, la déforestation s'est accélérée de façon alarmante. En 2019, il avait augmenté de 88% par rapport à l'année dernière. Ou l'année précédente plutôt. Le cas brésilien est spectaculaire, mais il n'est certainement pas le seul. Se pose donc une question générale, comment contraindre un État souverain à protéger un bien commun qui se trouve sous son territoire et dont la destruction aurait un impact planétaire? Eh bien, c'est l'un des fondements de l'ONU qui stipule qu'un État a la responsabilité première de prévenir et de faire cesser des crimes sur son territoire, mais que s'il échoue, par manque de volonté ou de capacité, la communauté internationale a une responsabilité subsidiaire d'intervenir. L'urgence est grande, mais le plus difficile est aujourd'hui d'appliquer ce fondement devant des gouvernements complètement stupides et responsables. Heureusement, ce fondement de l'ONU n'est pas la seule arme dont dispose l'humanité pour contrer la destruction de l'Amazonie et de ses tribus autochtones. Au Brésil, il existe une institution fabuleuse qui s'appelle la Fondation Nationale des Indiens. Son but est de connaître, faire connaître et protéger les communautés indiennes. Car il faut savoir que 13% du territoire brésilien est occupé par des Indiens eux-mêmes protégés par la loi. D'ailleurs, pendant les 6 années durant lesquelles il a sillonné l'Amazonie, Sebastião Salgado raconte qu'il a pu rencontrer quelques-uns de ces nombreuses communautés indiennes. Selon lui, il y aurait plus de 180 tribus différentes qui parlent plus de 150 langues différentes. Il y aurait même une centaine de tribus que l'on ne connaît pas et avec lesquelles il n'y aurait jamais eu de contact avec le reste de l'humanité. Ils sont protégés depuis 1988 et il est strictement interdit de tenter de les rencontrer dans le seul but de les préserver. Récemment, je crois même qu'une de ces tribus, les Corubos, ont été obligés de sortir de la forêt, probablement à cause des incendies. Ils ont contracté la malaria et ont eu beaucoup de mal à s'en sortir. Tous ces Indiens, Sébastien Sorgal les décrit comme des gens d'une douceur immense, n'ayant pas une once d'agressivité. Il ajoute aussi que toutes ces tribus ont une fine conscience de la forêt et que si elle venait à disparaître, en plus de perdre le poumon de la planète, on perdrait possiblement une importante concentration culturelle. Et voilà, c'était une chronique à propos de l'exposition Amazonia, une exposition qui est encore d'actualité puisqu'il vous reste quasiment 2 mois pour aller la visiter à la Philharmonique de Paris, au parc de la Villette. L'entrée est seulement de 12 euros.
Selva de enganos, a visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado.
noites de desatinos, numa ambição desmedida, absurdos contra os destinos de tantas fontes de vida. Quanta falta de juízo, tolices fatais. Quem diz mata, mata, não sabe o que faz. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver? Tombados deram suas folhas ao vento, folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Como dormir e sonhar quando a fumaça no ar arde nos olhos de quem pode ver?
C'était Roberto Carlos et son titre Amazonia. Et je ne voudrais pas terminer cette émission sans vous donner trois infos importantes. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'émission samedi prochain, nous serons le 11 septembre. À l'occasion des 40 ans de la Radio Libre, Radio Résonance prendra l'exclusivité de son antenne pour commémorer ses 4 décennies de radio. Nous, on y sera, évidemment. L'entrée est libre, à condition bien sûr de venir muni d'un pass sanitaire en bonne et due forme. Ce sera une journée de partage, car entre conférences, interviews, restitutions d'ateliers et concerts, il y en aura pour tout le monde. La deuxième info concerne également le week-end prochain et plus exactement le dimanche 12 septembre. Ce jour-là, l'association France-Portugal sera présente sur le site de la Fête des associations qui aura lieu aux Rives d'Oron de 10h à 18h. L'entrée est gratuite et je vous invite chaleureusement à venir visiter le stand de l'association qui cette année proposera à ses visiteurs une expérience gustative de haute volée, celle de déguster une délicieuse liqueur à base de cerises dans un verre au chocolat. Et ma troisième info concerne également l'association France-Portugal qui, après une année blanche à cause de la pandémie, reprendra ses cours de portugais pour adultes débutants ou confirmés à partir du 4 octobre prochain. Pour tout renseignement, vous avez deux numéros à votre disposition, le 06 51 65 31 11 ou le 07 63 73 03 60, ainsi que l'adresse mail franceportugal18@outlook.fr. Évidemment, toutes ces infos seront sur notre page Facebook ainsi que sur la page de France Portugal. Mais le mieux encore sera de venir pour vous renseigner auprès des bénévoles de l'association dimanche prochain à la fête des associations pour y goûter la fameuse ginjing.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute, que vous vous écoutiez de France ou d'ailleurs. C'est toujours un plaisir d'être là pour vous. Je vous embrasse.
Oui, au revoir tout le monde. Et oui, aussi, ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Samedi prochain, il n'y aura pas d'émission, car Radio Résonance prendra l'antenne exclusive. Ce qui ne vous empêchera pas, bien sûr, de rester sur sa fréquence pour écouter les émissions de cette grande journée d'anniversaire à propos des 40 ans de la Radio Libre. Quant à nous, Rencontres Lusophones, nous serons ici même en lieu et place le samedi 18 septembre. D'ici là, vous aurez tout le loisir de podcaster l'émission de ce soir, si bien sûr vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Je vous souhaite à tous un super week-end. Profitez bien du beau temps. À dans 2 semaines. Ciao.
Eu vou